Bonjour, vous êtes bien sur Esprit Occitanie, c'est Patchwork. Patchwork, c'est une série de chroniques sur des sujets divers et variés, animés par des animateurs qui le sont tout autant. Au gré des émissions et du temps, ils vous parleront de droit, de finances, de vin, de cinéma, de bien-être au travail et de bien d'autres choses encore. On les écoute. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? Nobody but you and me.
Chers auditeurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle chronique de Maître Marie dans notre patchwork sur Esprit Occitanie. Alors, cette semaine, sur la page Facebook de mon cabinet, j'avais publié une information relative à la vaccination obligatoire ou non des salariés contre le Covid-19, puisqu'en effet, à compter du 25 février 2021, les services de santé au travail ont la possibilité de vacciner certaines catégories de salariés. Et à cet effet, le ministère du Travail a établi un protocole de vaccination. Je vous avais communiqué cette information, mais je me suis dit que dans le cadre d'une chronique, il serait intéressant d'aller creuser un petit peu sur les questions qu'elle pouvait poser avant de vous donner la réponse à cette question, puisque la question c'était « Ai-je le droit d'imposer aux salariés de se faire vacciner contre le Covid-19 ?» Alors, la campagne de vaccination concerne les personnes de 50 à 64 ans inclus, atteintes de ce qu'on appelle les comorbidités. Le protocole de vaccination par les médecins du travail liste précisément les pathologies concernées. Donc on a notamment les pathologies cardiovasculaires, le diabète non équilibré ou compliqué, des pathologies respiratoires chroniques, obésité, cancer évolutif, cirrhose, immunodépression acquise, voilà. Tout un tas de problèmes de santé précisément listés. Et le vaccin utilisé sera le vaccin AstraZeneca. Le médecin du travail doit observer les règles relatives à la priorisation des publics qui sont ciblés par cette campagne de vaccination. Et il doit également respecter les règles déontologiques qui s'appliquent à la vaccination, notamment le secret médical et le respect du consentement de la personne. Si les services de santé au travail disposent des coordonnées de chaque salarié, il peut être envisageable qu'il les contacte directement pour les informer de cette campagne de vaccination. Mais attention, les services de santé au travail doivent tout mettre en œuvre pour respecter la confidentialité de la vaccination par rapport aux employeurs. Et donc, ils ne peuvent pas contacter les salariés en passant par les employeurs au moyen d'une convocation individuelle. Toutefois, les employeurs adhérents à un service de santé au travail qui participe à la campagne de vaccination transmettent à tous les salariés l'information de la possibilité de bénéficier d'une vaccination par la médecine du travail. Donc vous l'aurez compris, les informations circulent dans un sens, mais pas forcément dans l'autre, et il revient aux salariés concernés de prendre contact directement auprès de leur service de santé au travail pour justifier de leur absence. Ils informent seulement qu'ils rencontrent le médecin du travail sans en préciser le motif. Alors, pour savoir si les employeurs peuvent imposer ou non cette vaccination, en fait, ça nous pose également la question du consentement à la vaccination contre la Covid-19. Et je vous retransmets ici pour partie les termes d'un très bon article que j'ai trouvé sur leclubdesjuristes.com, qui est en fait un think tank juridique français, avec de nombreux experts, juristes, avocats, notaires, extrêmement compétents, professeurs d'université aussi. Et là, en l'occurrence, j'ai pu lire un excellent article de Xavier Bioy, qui est professeur à l'Université Toulouse 1 Capitole, donc en plus, Université de Toulouse, donc on est content, et qui est co-directeur notamment des masters droit des libertés et éthique, soins et recherche, sujet particulièrement concerné par la question de la vaccination. Alors, dans son article, Xavier Bioy nous indique que la vaccination s'analyse comme un acte de soins préventifs, un traitement. Elle appelle donc un consentement libre et éclairé de la personne, même si la perspective d'une exigence de vaccination pour l'accès à certains services pourrait peser sur la liberté de choix. Et oui, vous voyez que le passeport vaccinal, il va en poser des questions. Sous la forme d'une injection a fortiori dans le cas d'une formule innovante, le vaccin rencontre l'exigence de respect de l'intégrité physique, de l'autonomie de la personne et de son droit à la santé, notion posée par les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, liberté personnelle au sens de notre Constitution, et alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946. Vous avez d'ailleurs un arrêt du Conseil d'État du 6 mai 2019 à ce sujet, numéro 415-694, si on a des étudiants en droit qui nous écoutent et qui veulent aller en prendre lecture. Monsieur Burr rappelle également que le gouvernement souhaite ainsi inscrire l'acte vaccinal et le respect du refus de soins dans la relation médicale et l'article L1111-4 du Code de la santé publique qui dispose « Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informé des conséquences de ses choix et leur gravité. » Et donc, pour parvenir à un consentement dont on a dit qu'il devait être libre et éclairé, eh bien, on a une consultation obligatoire en vue de délivrer une information loyale, claire et appropriée. On a le Comité Consultatif National d'Éthique, le CCNE, dont je vous ai déjà parlé dans la chronique relative à la PMA pour toutes et à l'IVG, un avis du 21 décembre 2020, dans lequel le comité a demandé que le temps imparti à la délivrance de l'information et à son appropriation par la personne dans l'élaboration de son choix d'accepter ou non la vaccination soit respecté quel que soit le contexte d'urgence et l'effectivité de ce processus doit pouvoir être tracée. Voilà, donc il faut un temps de réflexion prévu et laissé si nécessaire. Il n'y a pas de forme écrite particulière, mais en tout cas, ce sont les demandes du comité. Alors, Xavier Bioy nous rappelle qu'en dépit de l'objectif de santé publique de la campagne de vaccination, sa gratuité, le fait de le proposer personnellement aux personnes de santé fragiles, l'absence d'obligation administrative, implique aussi qu'une conséquence défavorable ou discriminatoire ne peut, en l'état du droit, résulter du refus de se faire vacciner. Alors, ne faisons pas trop de raccourcis, mais vous voyez, l'accès aux concerts, restaurants, en l'état du droit actuel, en principe, refus de vaccination, pas de conséquences. À voir sur les mois qui viennent. Mais, néanmoins, tout comme les obligations de vaccination, des incitations pourrait favoriser l'exigence constitutionnelle de protection de la santé. On pourrait concevoir des avantages pour les personnes vaccinées, qui ne seraient pas forcément des inégalités de traitement illégales, particulièrement en période d'état d'urgence sanitaire, soit au titre de la différence de situation, soit pour motif d'intérêt général. Vous avez compris, c'est comme d'habitude, principe, exception, et puis cet état d'urgence sanitaire qui permet de faire des entorses bien pratiques tout de même. Alors, la difficulté du consentement libre et éclairé, elle ne se pose pas nécessairement pour vraiment ce qui fait l'objet de ma chronique, c'est-à-dire la vaccination des salariés dans le cadre du droit du travail, mais c'est vrai que ça peut poser des problèmes de compréhension et d'autonomie de décision chez notamment les personnes âgées en situation de dépendance et puis aussi les majeurs protégés, notamment sous tutelle. Et dans ces cas-là, eh bien, par exemple, dans le cas d'une altération des facultés, eh bien, il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation en tenant compte de l'avis exprimé par la personne protégée. Donc vous voyez qu'en termes de consentement, notamment pour les personnes âgées ou les personnes protégées, on va devoir quand même s'assurer d'une information complémentaire. Alors, ce que je trouve quand même très intéressant, il y a deux points que je trouve très intéressants dans cet article et qui viennent le clôturer, c'est que Xavier Bioy nous explique qu'un juge espagnol a récemment imposé la vaccination d'une résidente d'EHPAD diminuée dans son intérêt, en dépit du refus de sa fille, ce qui a entraîné d'ailleurs la suspicion de la presse, mais vous voyez que en Espagne, on peut faire un petit peu, en tout cas le juge a considéré que le vaccin pouvait primer sur en fait finalement le consentement. Et puis, Xavier Bioy termine son article par un point très intéressant où il nous dit que consentir ne signifie pas assumer un risque incertain et que la réparation intégrale des accidents médicaux imputables à des activités de soins réalisées à l'occasion de la campagne vaccinale anti-Covid-19 sera assurée par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Alors, il faudrait un petit peu creuser sur toutes ces précisions et ces notions, mais l'ONIAM, c'est l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Et moi, je trouve que c'est quand même... ça pique un peu la curiosité, cette information qui nous dit que la réparation intégrale des accidents médicaux imputables à des activités de soins réalisées à l'occasion de la campagne vaccinale sera assurée par l'ONIAM. C'est toujours intéressant quand on sait que le Parisien révélait il y a quelque temps que les laboratoires à l'origine des vaccins auraient signé une clause les dédouanant de toute responsabilité en cas d'effets secondaires non identifiés. Certes, c'est un autre sujet sur lequel on aura ou pas l'occasion de débattre, mais c'est quand même quelque chose, une information importante à retenir. D'un côté, on se dédouane de sa responsabilité, et de l'autre côté, la solidarité nationale assume. Remarquez, depuis le temps que la solidarité nationale assume, un peu plus, un peu moins, on n'est pas à ça près. Bref, je n'ai rien dit. Tout ça pour vous dire que pour en revenir à la question qui était celle de ma chronique, à savoir est-ce que, en tant qu'employeur, j'ai le droit d'imposer la vaccination à mes salariés, eh bien, vous l'aurez compris, le médecin du travail ne peut vacciner que les salariés volontaires et qui remplissent les conditions liées à l'état de santé et à l'âge, en tout cas pour le moment. Et donc non, en tant qu'employeur, vous ne pouvez pas imposer la vaccination de vos salariés. J'espère que cette chronique vous aura plu, que vous l'aurez trouvée intéressante, que comme d'habitude, elle vous aura posé question, parce que finalement, c'est ça aussi le but du jeu, c'est de communiquer des informations, mais surtout de réfléchir ensemble et de poser question. N'hésitez pas, au besoin, à nous réécouter ce soir lors de la rediffusion, et puis demain matin également, et de toute façon, à nous retrouver dans la merveilleuse bibliothèque de podcast d'Esprit Occitanie sur www.espritoccitanie.fr. Je vous souhaite une excellente semaine, et je vous retrouve mardi prochain dans le Patchwork. Avec grand plaisir. À bientôt. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice?
Chers auditeurs, bonjour. Monique Marc pour la rubrique « La lectrice d'Occitanie ». Nous découvrons cette semaine le chapitre 11 du roman de Frédéric Coudron, « La suerte des matards » aux éditions « Au diable Vauvert ». Juin 2018, Madrid. De retour à l'hôtel, je me posais sur le lit, en sous-vêtements, mon ordinateur portable sur les genoux. Il nous restait une bonne heure avant le départ pour la Ganaderia. J'en profitais pour faire quelques recherches sur Internet sur le Colt Patterson de calibre 31. Fabriqué entre 1837 et 1841 par la Patent Arms MFG Co. à Patterson dans le New Jersey, elle fut la première arme créée et brevetée par Samuel Colt. C'était un revolver à poudre noire avec les amorces placées sur les cheminées à l'arrière du barillet qui comportait 5 chambres. La rotation, l'alignement et le verrouillage du barillet étaient obtenus par l'armement du chien qui se faisait à la main. C'était donc une arme à simple action avec une détente escamotable. Le plus intéressant était le mode de chargement de ce revolver. Il se faisait par l'avant du barillet, canon enlevé. Pour le charger, on introduisait tout d'abord la charge nécessaire de poudre dans chaque chambre. Le projectile était ensuite introduit, toujours par l'avant du barillet. Pour tasser l'ensemble constitué de la poudre et de la balle, on utilisait le levier refouloir qui s'introduisait dans chaque chambre de l'arme. Pour finir, on remplissait de graisse ou de cire les creux autour des balles pour empêcher l'humidité de pénétrer, ainsi que pour empêcher la flamme issue d'une chambre voisine d'allumer les charges qui n'étaient pas en face du canon. La dernière étape consistait en la pose des amorces sur les cheminées. Les amorces permettaient, lors de la percussion, d'enflammer les charges de poudre contenues dans chaque chambre afin de propulser le projectile en plomb. Cette procédure de chargement étant lente, il n'était pas possible d'effectuer un rechargement dans une situation de combat. Cette arme de collection valait, sur des sites de vente en ligne américains, la modique somme de 79 000 dollars, soit environ 67 000 euros. Ces éléments m'apprenaient plusieurs choses. 1. L'assassinat de Victorino était prémédité. En effet, j'imaginais mal le tueur charger son arme sur place avec une procédure aussi complexe qu'une notice IKEA. Il avait donc préparé tranquillement le colt chez lui et l'avait amené chez Vega avec l'intention de tuer. Ce n'était pas une dispute qui avait engendré le coup de feu. 2. Le tueur était un amateur d'armes et même vraisemblablement un collectionneur vu le prix du petit bijou et la complexité de son utilisation. Évidemment, les flics avaient dû faire les mêmes déductions et s'ils n'avaient rien trouvé depuis 2 ans, la valeur de ma découverte devenait toute relative. Mais c'était un début. J'allais poursuivre mes recherches lorsqu'on frappa à ma porte. Pensant que c'était Paco, je me levai, toujours en sous-vêtements, et ouvris la porte. Mais je me trompais. C'était Ortega en personne. Vêtu d'un polo, d'un jean et de mocassins en daim, il avait vraiment une classe folle. « Mademoiselle Delors, je peux vous parler ?» J'étais à moitié nue, gênée comme jamais. Sans paraître perturbée, Ortega entra dans la chambre et s'avança vers le lit sur lequel mon ordinateur était posé. Par chance, un peignoir de l'hôtel traînait par là. Je m'en saisis et l'enfilai. Il ne fallait pas que le matador voie sur l'écran de mon PC les photos du Colt Patterson. Alors, je le bousculai un peu et me jetai sur le matelas pour refermer le Mac. « Mademoiselle, je voulais simplement vous parler, pas vous faire l'amour immédiatement. Nous avons le temps pour cela. » Je rêvais. Ce type venait de faire une blague salace avec un naturel déconcertant sur un ton parfaitement monocorde. Mais il avait tellement de charisme que ce qui, sorti de n'importe quelle autre bouche, aurait relevé de la grivoiserie, avait chez lui le goût de l'élégance anglaise. Je ne savais pas où me mettre. Je lui répondis par un rire idiot, puis je rougis de honte. « Je plaisantais, mademoiselle Delors, même si vous êtes charmante. Je voulais simplement vous dire que vous n'êtes pas là par hasard. Comment ça ? Je connais personnellement un des actionnaires de TF1, un aficionado de toujours et surtout un ami de longue date. Si je n'avais pas déjà été assise sur le rebord du lit, je pense que je serais tombée par terre. Ce type, imbu de lui-même, m'expliquait que je lui devais ma reconversion forcée dans grand reportage. C'était bien ça ? Je le regardais, énervée et interrogative. Je connais votre travail. Je passe beaucoup de temps dans les hôtels en France, à Nîmes, Dax ou Mont-de-Marsan. Je m'ennuie souvent dans ma chambre. Alors je regarde la télévision. J'ai suivi tous vos reportages sur les enquêtes criminelles. Vous êtes doué. Et donc ? Et Victorino Vega comptait énormément pour moi. Pourtant, vous m'avez dit l'avoir tué. C'était pour vous provoquer. J'aime provoquer les gens. Évidemment non, je ne l'ai pas tué. C'était mon ami, presque un père. Et vous pensez vraiment que moi, petite journaliste française, je vais réussir là où la garde civile espagnole échoue depuis 2 ans ? Je ne sais pas, ce n'est pas évident, je sais. Je ne fonde pas trop d'espoir, mais tout doit être tenté. Et puis, Armando Calderón n'est franchement pas ce que l'on peut appeler un flic d'élite, vous en conviendrez. Je ne sais pas, je ne le connais pas. Vous sembliez pourtant bien le connaître tout à l'heure dans ce café de Santa Ana. Comment savez-vous cela ? Vous m'avez suivi ? Plus exactement, je vous ai fait suivre. Quoi ? Mais pourquoi ? J'aime savoir à qui j'ai affaire. On est en plein délire là, vous savez. Pas du tout, je sais ce que je fais. Et qu'est-ce qui vous dit que j'ai envie de mettre le nez dans cette enquête ?
D'abord, c'est votre passion, c'est évident.
Ouais, admettons. Sinon, pourquoi seriez-vous allé boire un verre avec ce flic de bas étage ?
Touché.
Il m'énervait terriblement. Il semblait avoir réponse à tout.
Et puis, nous nous plaisons, mademoiselle Delors, n'est-ce pas ?
Il planta ses yeux dans les miens, sans aucune honte.
J'étais troublée, terriblement, mais je ne voulais pas le lui montrer. Et puis, il était en couple. J'allais donc calmer ses ardeurs par une phrase bien cinglante, que j'avais du mal à trouver, quand Paco entra dans la chambre sans même frapper. Son arrivée provoqua le départ d'Ortega.
Nous nous retrouvons dans 30 minutes dans le hall, mademoiselle Delors.
Il referma la porte derrière lui, me laissant seule avec mon caméraman.
Ortega ? J'hallucine ! Qu'est-ce qu'il faisait là, Lise ? Il te drague ?
Il te drague, c'est ça ?
Non, il voulait juste parler du reportage.
Tu te fous de moi, Lise ? Ça fait des jours qu'il ne t'adresse pas la parole en public, et là, il vient discuter du reportage avec toi en tête à tête.
Dans ta chambre.
Il te drague, ma vieille, c'est évident.
Quelle chance tu as. Tu as vu ces petites fesses qu'il se paye dans son jean.
Mon Dieu, je tuerais pour l'avoir dans mon lit rien qu'une nuit.
Même s'il me plantait son épée entre les omoplates après l'amour.
Je n'écoutais plus Paco. Je repensais à l'enquête. Le tueur était vraisemblablement un collectionneur d'armes à feu anciennes et américaines. Et un collectionneur cherchait toujours à agrandir ou à améliorer sa collection. Je me posais sur le lit et ouvris mon PC portable. En quelques clics sur Google, je trouvai quelques modèles de revolvers rares, dont le Colt New Pocket VP canon 6 pouces. J'enregistrai les noms de ces armes sur mon disque dur, ainsi que leurs photos et leurs prix sur le marché. Pendant ce temps, mon collègue poursuivait son monologue plein de sous-entendus. Moi, je restais concentrée. Je trouvais rapidement deux sites accessibles en Espagne, Este Militaria et Natura Buy. Sur des forums de discussion, ces portails étaient décrits comme étant le must du must pour les amateurs. Avec un certain effroi, je découvris qu'il était aussi facile d'y poster une petite annonce que sur le Bon Coin. Voilà mon idée. Appâter le tueur avec des modèles rares, dont un Colt Patterson, à des prix défiant toute concurrence.
Paco, je suis désolée, j'ai un truc super important à faire. Ça ne te dérange pas de m'attendre dans le hall ?
Ah, je vois, Madame est pudique. Elle ne veut pas parler du bel Hidalgo.
Oui, c'est ça, si tu veux.
Bon, ok. Je t'attends en bas, la chaise.
Enfin tranquille, je rédigeai une petite annonce pour vendre les armes que j'avais trouvées sur le net et laisser une adresse mail bidon créée en quelques secondes sur Gmail. Le piège était tendu. Restait à savoir s'il allait fonctionner. L'espoir était maigre, mais à ce moment précis, je ne voyais pas d'autre plan pour faire avancer l'enquête. J'étais en retard. J'enfilai un jean et des baskets et descendis dans le hall où toute notre délégation m'attendait. Ortega me lança un regard noir, mais il ne me fit pas de remarque. Nous montâmes dans des vannes et prîmes la direction de la ganaderia Victor Vega.
Voilà, chers auditeurs, vous découvrirez la suite de ce roman la semaine prochaine. En attendant, je vous invite à écouter ou réécouter cette chronique sur www.espritoccitanie.fr ou sur l'application mobile pour smartphone. À très bientôt !